Soundtrack. La musique de tous vos films. Présenté et animé par Jean-Christophe Fossard.
Bonjour à tous, bonjour à Mickaël Ponchon qui co-anime cette émission avec moi.
Bonjour Jean-Christophe.
Eh bien nous voilà, alors on a eu quand même de sacrés sujets. On a fait la guerre sur deux émissions, on a fait les séries dystopiques et uchroniques. Maintenant on est sur du fantastique. Et vous avez choisi le tout premier thème.
Le tout premier thème, on va rentrer dans le vif du sujet.
Allez,
puisqu'il s'agit de Beetlejuice, un film de Tim Burton, musique composée par Danny Elfman.
Voilà, Beetlejuice, mais c'est pour moi un des grands films. Moi, il m'a fait mourir de rire. C'est Michael Keaton qui joue le rôle de Beetlejuice.
Oui, Michael Keaton. Ouais.
Qui est fou allié dedans. Enfin, je trouve ça... Puis, il faut rentrer dans l'univers.
Ah oui, c'est l'univers de Tim Burton. C'est son deuxième film en tant que metteur en scène après Pee-wee. Avec Danny Elfman, ils collaboreront musicalement sur pratiquement toute l'œuvre de Tim Burton.
Ouais.
Et c'est vrai que je peux trouver ça amusant de présenter Beetlejuice parce que pour notre génération en général, tous les gens l'ont vu. Et puis c'est une vraie entrée. C'est une vraie entrée la matière. C'est une vraie entrée dans la matière pour ce qui est du fantastique, puisque ça reste un film, il y a un côté vraiment onirique et assez délirant.
Allez, on va sur quelque chose d'un peu plus sérieux, si vous me permettez. La musique d'un film, L'Associé du Diable, composé par James Newton Howard, qui est une bande originale qui mélange subtilement des éléments classiques et modernes. L'atmosphère y est sombre et mystérieuse. Alors, c'est quoi ? C'est l'histoire... vieille comme le monde, où bien sûr le diable va faire un pacte avec quelqu'un qui est joué par Keanu Reeves et Al Pacino qui joue le diable, en lui disant tu as le droit, tu vas avoir tout ce que tu veux, mais à la fin j'aurai ton âme. Écoutons L'Associé du Diable.
Thank you.
Voilà, du diable, on va passer à l'invisibilité.
Oui, l'invisibilité avec The Hollow Man, réalisé par Paul Verhoeven, qui est une relecture de L'Homme Invisible, enfin en tout cas du roman L'Homme Invisible de H.G. Wells. Il y avait déjà eu une adaptation, il y en a eu beaucoup au cinéma, il y avait une adaptation assez intéressante au début des années 90 par John Carpenter avec Chevy Chase, qui n'avait pas forcément très bien marché, et c'est vrai que là, Hollow Man... Pour le coup, Paul Verhoeven se réapproprie le mythe de l'invisibilité, mais en faisant de son personnage Sébastien Crane, joué par Kevin Bacon dans le film, un personnage assez terrifiant, puisqu'il ne va pas se servir pour le coup de l'invisibilité comme d'une force, mais véritablement comme d'une arme, c'est-à-dire qu'il va vraiment passer de l'autre côté et basculer du côté noir de ce que ce genre de pouvoir peut appeler dans l'âme humaine. Verhoeven retravaille avec Jerry Goldsmith, c'est son partenaire musical, ils ont travaillé sur Basic Instinct et sur Total Recall, entre autres. Il y a des similitudes, très honnêtement, entre Hollow Man et Basic Instinct. Là, on a choisi le thème du générique. Et on est véritablement, avec ces cordes très lancinantes, à l'intérieur du crâne du personnage principal, dans ses méandres et dans le marasme que peut engendrer ce genre de pouvoir.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, l'émission Soundtrack co-animée avec Michael Ponchon et moi-même. Et puis bien sûr, vous pouvez écouter cette émission en podcast sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre télé connectée. On peut dire presque sur tout ce qui est électronique. On va dire ça.
On peut le dire.
Alors, nous, on a nos entretiens. Ce sont des entretiens qui sont liés au cinéma. Mais il y a aussi d'autres entretiens qui sont un peu plus dangereux, qui sont un entretien avec un vampire.
Oui, c'est un film de 1994, réalisé par Neil Jordan, à qui on devait The Crying Game et La Compagnie des Loups. On est en 94, on met en scène les deux sex-symboles masculins de l'époque.
Oui.
Tom Cruise, Brad Pitt.
Ouais. Alors c'est tiré du roman de...
C'est tiré d'un roman de Anne Rice et la musique est confiée à Elliot Goldenthal. Et Elliot Goldenthal, dans ces années-là, il sort de Cimetière, de Alien 3, de Demolition Man. C'est-à-dire que c'est un peu le compositeur, le jeune compositeur incontournable à Hollywood. Et Neil Jordan va lui confier cette partition qui va réussir vraiment brillamment. Il y a vraiment un aspect Goldenthal, il insuffle un véritable souffle épique, voire baroque.
Et je vous... Gothique, moi, je dirais.
Gothique, parce que le... Encore une fois, il s'agit... Alors, on a évoqué l'invisibilité, et là, on évoque l'immortalité. Mm-hmm. Et l'immortalité ne va pas, bizarrement, sans son prix. Et je trouve que, musicalement, on retrouve véritablement le prix à payer de ce que coûte le fait de ne jamais mourir.
Et les règles à ne jamais faire, puisque je crois que dans l'immortalité, c'est-à-dire quand on devient... On ne prend pas d'enfant. Et là, il y a l'histoire de l'enfant.
Oui, puisque à l'intérieur du film, il y a une petite fille, en l'occurrence la toute jeune Kirsten Dunst.
Oui, c'est ça.
C'est amusant de revoir ce film parce qu'elle est vraiment... c'est une gamine dans le film. Elle doit
elle
avoir
12-13
ans.
Oui, c'est ça.
Par contre, vraiment, la confrontation et la psychologie qui se joue entre les deux personnages que sont Tom Cruise et Brad Pitt, et je crois d'ailleurs qu'on les reverra jamais ensemble à l'écran, je trouve est vraiment très, très intéressante.
Voilà, des vampires qui nous amènent à l'éternité, quelque part. Et un film que vous avez sûrement vu, en tout cas, je dis ça à nos auditeurs, Rencontre avec Joe Black. Alors, c'est l'histoire, en vérité, de la mort qui va prendre une petite pause et qui va rencontrer un riche industriel et lui dire « Bon ben, je viens te chercher. Mais avant de venir te chercher, je veux savoir ce que c'est que l'amour, explique-moi ce que c'est. » Voilà à peu près le thème du film. Les thèmes musicaux sont délicats. Newman, donc, là aussi, souligne l'histoire d'amour entre les personnages, ajoutant une dimension très, très mélancolique et spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'histoire de passage entre cette possibilité, alors j'ai trouvé ça assez bien, de pouvoir dire au revoir. Mais derrière, il y a aussi, comme il a un empire qui est important, et le père est joué par Anthony Hopkins, et la mort est jouée par la beauté, entre guillemets, de l'époque. Comment il s'appelle ?
Brad Pitt.
Brad Pitt, merci. Et c'est vrai qu'à un moment, la mort dit, tiens, et si moi je pouvais avoir du sentiment ? Et c'est ça qui est intéressant.
C'est intéressant d'avoir fait ce choix-là dans cette thématique de film fantastique, parce que le film est quand même plus souvent associé à un film romantique de par la pureté du visage de Brad Pitt, en mm-hmm. tout cas ce qu'il représente à l'époque. Et c'est vrai qu'on a écouté précédemment Entretien avec un vampire, et dans ces années-là, Brad Pitt se verra offrir vraiment beaucoup, beaucoup de projets, mais aura l'intelligence de les choisir. Et c'est-à-dire qu'à chaque film, en fait, il casse l'image qu'il a créée avec le film précédent, et à mon sens, Joe Black en est vraiment un très, très bel exemple.
Allez, on écoute. Allez, Michael, je pense que là, vous allez m'épater sur un film qui m'est complètement inconnu.
Un film qui s'appelle La Grande Menace, réalisé par Jack Gold, qui était vraiment un orfèvre du cinéma de série B. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la télévision en Angleterre dans les domaines de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction. Ah, c'est vraiment un film, c'est une curiosité. J'aime bien dans nos émissions faire découvrir des films ou en inhumer certains. C'est un film qui réunit Richard Burton et Lino Ventura. Et Lino Ventura en 1978, c'est-à-dire qu'il accepte d'aller travailler en Angleterre. Richard Burton, en fait, interprète le rôle d'un personnage atteint de télékinésie, c'est-à-dire qu'il peut prédire, en fait, des événements dramatiques. Et il y a un côté à la fois fantastique, il y a à la fois un côté film catastrophe.
Ouais.
La musique du film est confiée à un très très grand compositeur, encore une fois, dont j'aime complètement oublié, qui s'appelle Michael G. Lewis, qui a énormément travaillé en Grande-Bretagne. Il a travaillé notamment sur un film d'action et d'aventure un petit peu réévalué aujourd'hui qui s'appelle Les Loups de Haute Mer avec Roger Moore. Mais je trouve que sa partition pour ce... La musique parle d'elle-même, donc je vous propose d'écouter le thème immédiatement.
Allez. Thank you. Voilà, vous êtes toujours sur Soundtrack. Alors, nous sommes deux types qui parlons à la radio. Mais là, on va faire une rencontre d'un troisième type.
Bah, d'un troisième type, mais il est, je pense qu'il est très difficile. En tout cas, il nous faudrait 4 heures pour parler de ce film qui, à mon sens, est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction, de fantastique.
Je vais vous faire une confession, Michael. Vous avez 2 minutes.
Bah, on va essayer de faire court. Ouais. Rencontre du troisième type, Steven Spielberg, ouais. John Williams. Pour moi, c'est bête à dire, mais Spielberg, est à peine rentré dans la trentaine quand il réalise ce film. Mmh. Et au lieu de faire des extraterrestres, une entité qui veut nous gouverner, qui veut nous envahir, souvent, qui veut nous faire peur, lui, il va faire un film de dialogue, de contact visuel et sonore. Mmh. Et je trouve que le film a toute sa place dans cette émission où l'audio est à la première place.
Complètement.
Et dans le film... Hormis, effectivement, il y a des effets spéciaux, il y a des twists, mais c'est un film intelligent de par la jeunesse de son metteur en scène et la maturité dont Spielberg fait preuve dans ce film.
Alors, on y retrouve quand même Richard Dreyfuss et François Truffaut.
Oui, et François Truffaut. Le fait est qu'avant de proposer le rôle à François Truffaut, le rôle du professeur, donc Lacombe, dans le film,
ouais.
Spielberg s'était adressé à Lino Ventura, dont on vient de parler précédemment. Ventura, ne parlant pas une bribe d'anglais, avait refusé le rôle. Je trouve qu'en plus, il y a une vraie filiation entre Spielberg et Truffaut.
Oui.
Truffaut, un des pères de la Nouvelle Vague, qui rencontre Spielberg, qui n'est pas un des pères de la Nouvelle Vague, mais qui est en tout cas un des pères d'un renouveau du cinéma hollywoodien.
Il a une grande admiration pour Truffaut, Spielberg.
Les deux hommes avaient une grande admiration mutuelle, et je trouve ça formidable que Truffaut ait accepté de faire l'acteur pour ce film, et un des vraiment des protagonistes du film. La musique est confiée à John Williams, partenaire de Spielberg depuis Sugarland Express. Ils ont fait Les Dents de la Mer, donc voilà, c'est un binôme qui marche formidablement bien. Et la musique, à l'intérieur de ce film, a tout son sens, puisque les humains vont rentrer en contact avec les extraterrestres par la musique, par un dialogue,
un son,
voilà. Et je trouve que voilà, en fait, j'ai pas forcément envie d'en parler des heures, j'ai juste envie d'écouter la musique composée par John Williams.
Alors, nous arrivons à la dernière partie de notre émission avec un dernier morceau. La musique du film, pour moi, qui représente l'enfance, c'est Histoire sans fin. Alors, la musique est composée par Klaus Dollinger et la bande originale évoque, et c'est vrai, une forme de magie, d'aventure, de conte fantastique. Les thèmes musicaux emblématiques sont enjoué, accompagne l'héroïque, le jeune Bastien à explorer le monde de Fantasia. La musique joue un rôle essentiel, captivant l'imagination du jeune spectateur, en tout cas à l'époque. Et souvent, j'allais dire, l'histoire est captivante et l'aspect est intemporel. Alors là, on va écouter le générique emblématique chanté par Limahl en 1984. On se quitte là-dessus. Faites de beaux rêves. Et je vous dis à très bientôt. Merci Michael.
À bientôt Jean-Christophe.